Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour, bienvenue sur les antennes de vos Radio Campus. Vous écoutez Univox. Dans cet épisode proposé par Radio Campus Angers, nous vous emmenons à la découverte du mois du genre, organisé tous les ans depuis 2017 par l'université. Cette année, le thème était amour.s, donc au singulier et au pluriel. Tout au long du mois de mars, différents événements ont été organisés, et parmi eux, l'atelier « Raconter son premier amour ». Paolo Droyard s'est rendu sur place. Mais tout de suite, nous vous proposons une interview diffusée le 16 mars dans le sous-marin, une interview de Marion Thomas par Simon Boucrel. Elle nous parle des masculinistes à l'occasion d'une balade sonore qu'elle organisait.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Depuis 2017, l'Université d'Angers organise le Mois du Genre et pour cette 10e édition, l'UA nous invite à réfléchir lors de nombreuses conférences et ateliers sur la thématique puissante de l'amour. C'est dans ce cadre que l'artiste Marion Thomas propose avec deux autres artistes, Audrey Bercier et Maxime Reiss, une déambulation qu'il nomme « Kit de survie en territoire masculiniste ». Le public a eu l'occasion tout au long de ce lundi 16 mars de suivre une femme tout en écoutant le récit d'un incel, un membre de cette communauté des célibataires involontaires qui se retrouvent sur internet autour de leur haine commune des femmes. Alors pour mieux comprendre ce projet et les enjeux du mouvement incel et du masculinisme dans notre société, Marion Thomas a accepté notre invitation pour embarquer avec nous dans le sous-marin. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Alors tu es autrice, comédienne et metteuse en scène et la performance donc se focalise, on le disait, sur les incels et la haine qu'ils développent contre les femmes. Revenons sur la définition du mot incel, c'est la contraction de involuntary celibate ou célibataire involontaire en français. La notion du célibat, elle est importante, mais finalement, qu'est-ce qui définit plus largement ces incels, hormis le fait qu'ils soient célibataires involontaires ?
Je pense que c'est vraiment l'idée que c'est de la faute des femmes, dans le sens, l'idée qui est aujourd'hui d'ailleurs assez répandue, que les femmes sont superficielles, et donc elles vont chercher à sortir avec des hommes qui sont plutôt beaux, musclés, et qu'il y a toute une partie de ces incels qui pensent qu'en fait, si l'amour ne leur est pas accordé, c'est parce que les femmes sont justement trop superficielles ou trop vénale, c'est-à-dire qu'elles aiment bien aussi les hommes qui ont de l'argent.
C'est une manière pour eux presque de s'auto-rassurer en se disant que c'est pas de leur faute s'ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un.
Voilà, exactement. Une façon d'accuser l'autre aussi, et puis une façon de voir les relations amoureuses non pas comme une rencontre entre deux personnes qui pourraient partager les mêmes intérêts ou les mêmes passions ou avoir un humour en commun, mais beaucoup plus une sorte de compétition, en fait, dans laquelle eux seraient les perdants.
La déambulation, elle tourne quand même beaucoup aussi autour du masculinisme. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir des images de masculinistes qui seraient forcément des gens fans de muscu, etc. Mais aujourd'hui, ces incels qui font partie, qui prennent vraiment part au mouvement masculiniste, qu'est-ce qu'ils représentent vraiment dans cette mouvance?
En fait, je pense que c'est quelque chose qui est complexe dans le sens où moi j'ai commencé à travailler sur ça, c'était en 2010, et vraiment à la base c'était un peu l'idée de ça partait d'une souffrance, c'est-à-dire que c'était quand même des jeunes hommes qui jouent beaucoup, enfin, c'est vraiment le cliché quoi, qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, qui se sentent mal dans leur peau, qui ont l'impression qu'ils arriveront jamais à parler à une femme, et puis ça part vraiment de cette espèce de souffrance, et puis j'ai l'impression qu'elle a été qu'il y a des gens qui ont capitalisé sur ça, c'est-à-dire qu'il y a des influenceurs masculinistes qui vendent des formations en disant voilà, les femmes elles sont comme ci comme ça, et si toi tu veux réussir à choper, il va falloir que t'apprennes à être un vrai homme, que t'apprennes à être assertif quand tu parles, alors que tu apprennes à te muscler, etc., etc. Donc en fait, c'est devenu une sorte de modèle aussi de rentabilité pour ces influenceurs masculinistes qui profitent de la souffrance de ces jeunes hommes.
Et est-ce qu'on peut avoir un peu un panorama aujourd'hui de la mouvance masculiniste, que ce soit en France ou ailleurs? Qui sont-ils concrètement?
Alors ça, je peux pas répondre parce que je suis pas chercheuse en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup traîné sur des forums d'incels et de masculinistes, donc j'ai cette porte d'entrée là. Et moi, j'ai quand même un peu, c'est pas très politiquement correct de dire ça, surtout pour une féministe, mais pour les incels, j'ai eu une forme, en tout cas, de tendresse pour eux parce que je peux. Disons que quand j'étais adolescente, je pouvais être une sorte de version féminine d'incel, c'est-à-dire d'avoir du mal à sortir, d'avoir du mal à parler aux autres, et de ouais, et d'avoir vraiment cette souffrance-là. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus large, c'est-à-dire que ces idées d'incel, elles ont quand même innervé, surtout dans les mondes virtuels, dans les gens, dans les communautés de gamers, etc. Et que du coup, maintenant, j'ai l'impression que ça, que c'est beaucoup moins, disons, tabou de parler de masculinisme et de parler des femmes comme, comme d'objets ou comme, enfin, de les mettre dans des cases comme ça.
Mais ça veut dire que le profil type du masculiniste, il a évolué à travers le temps depuis 10-20 ans avec cette émergence d'Internet ?
Moi, je pense ouais, que ça c'est vraiment... Après, par exemple, dans les premiers forums d'Incel, le principe, c'était vraiment... par exemple, toi, t'es un jeune homme, t'as, disons, 16-17 ans, t'as jamais eu de copine, ce qui est en fait tout à fait normal et pas du tout grave. Bah, tu vas aller sur ces forums-là et puis en fait, tous les autres vont t'expliquer que c'est parce que t'es moche, que c'est parce que tu n'as pas de conversation, parce que, et que tu n'arriveras jamais à trouver et donc, une femme. Et donc, c'est une façon de se radicaliser en étant ensemble, mais en étant ensemble dans un truc vraiment... en se tirant vers le bas, quoi. Mmh.
Tu parlais de radicaliser, et tout à l'heure, tu parlais aussi du profil type, souvent des jeunes qui sont un peu perdus et qui se retrouvent engrainés. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le masculinisme en général, ou en tout cas les mouvements masculinistes, aussi divers soient-ils, sont une forme de dérive sectaire, ou en tout cas de dérive ?
C'est sûr que c'est une forme de dérive. Que c'est une forme de dérive aussi parce que il y a... Enfin, j'ai vu des... statistique il n'y a pas longtemps et qui a aujourd'hui dans la génération des jeunes qui ont moins de 25 ans beaucoup plus d'hommes qui pensent, de garçons qui pensent que la femme doit être au service de l'homme que dans la génération des baby boomers, donc qui sont vraiment des, enfin voilà, qu'il y a une forme de recul là-dedans, et j'ai l'impression aussi de polarisation très forte entre les genres, quoi, donc entre les femmes qui vont vouloir se libérer, qui vont essayer d'avoir plus de communication dans les relations, qui vont essayer vraiment d'aller vers quelque chose qui est plus libéré, quoi, alors que il y a quand même beaucoup d'hommes maintenant qui vont avoir des valeurs, disons, plus traditionnelles ou se recroqueviller sur ça, quoi. Et puis moi, la branche des incels dont je parle dans la pièce, elle est, c'est la plus radicale. Donc c'est vraiment ceux qui décident de punir les femmes pour avoir été célibataires et donc qui vont décider de descendre dans la rue pour tuer des femmes.
Oui, c'est pas juste des propos ou des idées, il y a aussi vraiment une violence qui s'accompagne.
Oui, c'est ça. Il y a une mise en action et qui est très... là aussi, par exemple, la plupart de ces jeunes hommes qui vont donc descendre dans la rue ou aller dans des studios de yoga ou des studios de danse, parce que c'est là qu'ils imaginent qu'il y a le plus de femmes. Et tuer des femmes, c'est vraiment un truc qu'ils partagent ensuite avec le reste de la communauté. Donc, soit sous forme de vidéos, soit sous forme de textes aussi, qui balancent avant de commettre leur acte sur les forums. Donc, c'est vraiment... Il y a un truc de violence extrême, quoi.
Pourtant, on sent qu'il y a quand même un certain paradoxe dans le sens où peut-être que la société aujourd'hui sur certains aspects devient de plus en plus progressiste, de plus en plus de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, conscientisent peut-être plus les différentes inégalités qu'il peut y avoir et les problèmes que ça cause. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a un espèce de contre-courant qui lui part complètement dans la direction opposée. À quel point est-ce qu'aujourd'hui on a une évolution à deux vitesses sur ces questions-là ?
Oui, c'est ça. Bah, j'ai l'impression qu'effectivement, le féminisme, le mouvement MeToo, les questions aussi des minorités de genre, etc., ça a beaucoup avancé. Puis c'est un peu comme par... je sais pas, comme... ça pousse de l'autre côté, quoi. Et moi, j'ai l'impression que les incels, ou en tout cas, ce que j'ai pu voir des incels, c'est quand même, on va dire, des jeunes blancs plus ou moins assez privilégiés et qui ont l'impression, en fait, qu'on va les effacer de la société si jamais les femmes et les minorités de genre commencent à avoir la parole. Ils se disent un peu, bah, du coup, ça va être quoi ma place, moi on m'efface complètement.
Alors donc, ce sujet tu le traites, on le disait, à travers cette balade sonore. À cette occasion, tu as rencontré donc des hommes hein, qui se considéraient comme ces célibataires volontaires. Quels ont été les échanges qu'il y a eu avec eux ?
En fait, moi je joue beaucoup aux jeux vidéo. Et donc j'avais dans mon cercle plus ou moins proche pas mal de gens qui se définissaient comme incel. Et en fait, c'était quand même des gens qui avaient, disons, une définition qui allait pas jusqu'à la violence faites aux femmes, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas envie non plus de descendre dans la rue, mais qu'ils avaient quand même ce discours un peu de, bah ouais, les femmes, elles sont, elles vont vouloir coucher avec plein de mecs à 20 ans, puis quand elles auront 30 ans, elles vont vouloir sortir avec moi parce que moi, j'aurai plein d'argent et que je serai ingénieur informatique, et du coup, c'est dégueulasse, et des discours un peu comme ça. Et c'est difficile de les désencrasser de ce genre de discours. C'est difficile de leur dire, bah moi, je suis ta pote, on boit des bières ensemble, et pourtant, tu te me considères pas comme ça. Puis ils me disent, oui, mais toi, tu joues aux jeux vidéo, ou c'est pas pareil, ou c'est. Puis je leur dis, bah en fait, si, c'est exactement la même chose. choses. Puis après, si je peux citer un truc qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'étais donc sur un de ces forums incel et il y a quelqu'un qui a publié une photo de lui dans la neige sous un arbre et il y avait une bouteille d'alcool et il y avait un flingue et il a dit à la communauté, bah en fait... voilà, j'ai plus envie de vivre. Je trouve que la vie, c'est trop dur. Donc, vous avez le temps que je finisse cette bouteille d'alcool pour me convaincre de pas me suicider. Et là, tous les commentaires, les genre 30 premiers étaient vraiment, ça fera une raclure en moins sur la planète. Suicide-toi. De toute façon, la vie, ça vaut pas la peine d'être vécue. Enfin, je trouve qu'il y a aussi quand même vachement de violence entre eux, quoi.
Et la violence, elle est aussi donc, comme on le disait, entre vis-à-vis des femmes. Certains emploient même un terme qui s'appelle donc c'est fémoïde, qui serait une contraction donc de female et humanoïde. C'est ce vocabulaire qui se développe. Est-ce que ça aussi c'est un symptôme d'un courant très précis avec ses codes, ses valeurs et en particulier la haine des femmes?
Ouais, donc en fait il y a plusieurs un peu. Ils reprennent aussi la métaphore de Matrix où tu prends une pilule et puis du coup tu vois plus la réalité de la même manière. Donc il y a les red pillers qui sont un peu les incels, on va dire modérés, puis il y a les black pillers dont la devise est lay down and rot, donc se coucher là et pourrir sur place, qui sont vraiment les plus les plus radicaux. Et effectivement, il y a toute une mythologie qu'ils ont créée. Donc, par exemple, il y a le Chad qui serait un peu le footballeur américain du lycée, un peu beau gosse et tout. Ils ont plein de sortes de figures comme ça. Il y a la Becky, ou la Becky, ça serait un peu moi, c'est-à-dire c'est une fille qui joue aux jeux vidéo parce qu'elle est pas très belle. Et donc, du coup, elle s'imagine que c'est comme ça qu'elle va pouvoir choper des mecs. Mais en tout cas, si elle joue aux jeux vidéo, c'est pas parce qu'elle aime bien, quoi. C'est vraiment pour dans l'espoir de pouvoir choper des mecs. Puis ouais, ils ont tout, ils ont aussi beaucoup de croyances sur. Je vais être un peu cru quoi, mais par exemple sur l'idée que une femme, plus elle connaît de partenaires sexuels différents, et plus son vagin va s'élargir. Et donc du coup, c'est très important d'avoir une jeune femme vierge parce que sinon tu pourras pas prendre de plaisir avec elle.
Alors pour qu'on ait un peu une idée de ce à quoi va ressembler cette déambulation sonore, on écoute un petit extrait.
Je me balade souvent seule dans la rue. Parfois, je bois un café en terrasse et je bouquine. Il m'arrive aussi de boire des bières le soir, mais ça, c'est moins souvent. En fait, selon mon expérience, c'est plus compliqué d'avoir la paix. Il y a toujours un mec pour essayer de se taper l'incruste. Salut, je peux m'asseoir? Je veux pas te déranger, seulement discuter. Je suis un féministe, tu sais, moi, j'aime les femmes. Je pense à toi souvent dans ces moments-là. Je t'ai découvert sur Internet en tombant sur ta chaîne YouTube. Après ça, j'ai suivi tes traces un peu partout et pendant plusieurs mois, tu m'as obsédée. J'ai même un dossier dans mon ordinateur qui porte ton nom. Je sais que ta boisson préférée est le café latte, que tu aimes conduire ta BMW pendant des heures, sans but précis, en écoutant de la musique des années 80. Je sais que tu penses pourrir dans la solitude, que tu passes ton temps derrière ton ordinateur à jouer aux jeux vidéo, que tu as l'impression de tourner en rond. Je sais aussi que tu n'as jamais rencontré l'amour, mais que ce n'est pas faute d'avoir essayé. Par exemple, tu racontes qu'un jour, tu as croisé une fille aux cheveux châtains, qui portait trop de maquillage, une 6 sur 10, comme tu dis. Alors, tu as pensé que tu avais une chance de coucher avec elle, tu l'as abordée, mais elle t'a ignorée. Tu as écrit sur un forum ce soir-là, j'aurais voulu lui écraser le visage sur le béton, mais il y avait trop de gens autour de nous.
Donc voilà un extrait du teaser de la déambulation sonore qui est donc diffusé aujourd'hui jusqu'à ce soir. C'est venu cette idée de faire ce format-là, c'est venu donc des échanges que tu as pu avoir sur ces forums, mais pourquoi avoir eu envie d'utiliser cet outil qu'est la déambulation sonore pour parler des masculinistes?
Déjà, mon matériau principal pour écrire la déambulation, c'est... Très spécifiquement, le premier incel à être descendu dans la rue pour effectuer une tuerie de masse, quoi. Et puis ce garçon-là, il avait une chaîne YouTube qui était comme une sorte de journal intime. Et puis il a aussi publié un manifeste sur Internet. Et donc moi, ça, c'était vraiment Enfin, c'est en gros, je lui parle pendant la balade. Et en fait, j'avais pas envie de faire une pièce de théâtre classique. C'est-à-dire que je voulais pas qu'il soit interprété par un comédien. Je voulais pas qu'il ait la voix, quoi. Je voulais pas qu'il ait de la place. Et j'avais aussi envie de rapprocher ça du harcèlement de rue, en tout cas de la place que la drague de rue elle prend, et essayer de comprendre, parce que ce garçon-là abordait beaucoup les femmes dans la rue, mais vraiment un peu « Bonjour, je suis célibataire, est-ce que tu voudrais sortir avec moi ?» Et il comprenait pas que les femmes lui disent non, mais vraiment quoi. Et du coup, c'était intéressant pour moi aussi de me dire « Ah, en fait, il y a vraiment des mecs qui pensent que en abordant une meuf dans la rue, en deux secondes, bah, elle va accepter d'aller boire un café avec eux ou quoi. » Et lui, son idée, c'était vraiment « Je vais mettre une grosse montre, je vais porter des fringues de luxe, et puis là, les femmes, elles vont tomber, quoi, quand je vais... aller les aborder dans la rue. Donc je trouvais ça aussi intéressant de mettre en parallèle mon expérience de jeune femme dans la rue avec son expérience, lui, de jeune dragueur dans la rue.
Pendant le teaser qu'on vient d'entendre, on entend cette femme qui explique sa rencontre avec un homme qui se considère comme incel. Pourquoi avoir choisi de raconter l'histoire aussi du point de vue d'une femme ?
Parce que pour moi c'était important, donc comme c'est quelqu'un qui a vraiment existé, c'était important de pouvoir parler depuis mon point de vue, et aussi parce qu'en fait on a une enfance et une adolescence qui a des points en commun. Alors j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais moi j'étais une adolescente assez solitaire qui jouait énormément aux jeux vidéo, mais sauf que moi quand je suis arrivée à la fac, j'ai commencé à sortir, à voir des potes, à faire des concerts, à boire mes premières bières, et puis en fait je me suis ouverte, quoi. Et lui, il a eu le trajet inverse. Quand il est arrivé à l'université, il a vraiment eu un truc où il s'est empli de rage de plus en plus, jusqu'à ce fameux jour en 2014 où du coup il est descendu dans la rue pour tuer des gens. Donc ça me paraissait important de faire de montrer qu'en fait y a aussi des femmes qui sont dans cet état-là à l'adolescence, et pourtant en tout cas moi je suis pas devenue comme ça. Et puis il y avait aussi l'idée, je pense, de pas, ça me, je trouvais ça pas forcément intéressant de parler des incels en disant en donnant tout de suite la solution au public, en disant voilà, c'est des salauds, et puis ils maltraitent les femmes. Et puis je trouvais ça plus intéressant d'essayer de passer par l'empathie, d'essayer de comprendre ça a été quoi dans son parcours à lui, le moment décisif où il a basculé.
Oui, de comprendre presque finalement n'importe quel ado peut être sur une brèche et se retrouver d'un côté comme de l'autre.
Ouais, c'est ça, d'essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui dans sa tête a fait qu'à un moment il a pété un câble, quoi. Et j'ai pas trouvé. Vraiment, c'est une suite de plein de petits trucs, mais c'est une énigme qui est ouverte, quoi.
Et puis on imagine que chaque cas peut être aussi unique.
Complètement.
On peut revenir peut-être sur le titre de cette déambulation sonore, donc kit de survie en territoire masculiniste. Kit de survie, c'est quand même un terme qui est assez fort. Qu'est-ce qui fait que ce qui va être entendu peut servir de kit de survie ?
Et alors l'idée à la base c'était un peu, du coup ce spectacle il a 6 ans maintenant, et je pense que c'était un peu ce truc, moi je voyais beaucoup autour de moi des gens qui parlaient justement de cette nouvelle ère post-MeToo, puis que ça allait être génial et qu'en fait il y avait une forme de libération et tout ça, puis c'était de prévenir qu'il y avait aussi de l'autre côté quelque chose qui poussait, qui a aujourd'hui je trouve bien fleuri, enfin je trouve que les masculinistes sur internet maintenant on en voit quand même beaucoup, quoi. Et donc l'idée à la base c'était ça, et en fait je pense que ce titre-là n'est pas un bon titre, dans le sens où il y a beaucoup de gens, des hommes surtout, qui ne connaissent pas le mot masculiniste, qui est du coup vraiment des hommes qui pensent que la femme doit retourner dans la cuisine et qu'elle est inférieure à l'homme, etc. Et donc c'est pas... en fait on a très peu d'hommes qui viennent voir la performance parce qu'ils ont trop peur de se faire taper sur les doigts, alors qu'en fait l'idée c'est vraiment pas ça, quoi. C'est vraiment de parler de masculinisme, mais pas des hommes en général.
Il y a presque un angle sociologique, j'ai envie de dire, dans le sens où on va essayer de comprendre comment on arrive là, à travers des portraits qui sont peut-être des portraits types aussi.
Oui, ça parle vraiment, en gros, on entend un moment un peu sa voix à ce jeune homme. C'est vraiment sur cette personne-là qui a donc été... en fait, les incels l'appellent le messie, parce que c'est vraiment le premier à avoir... à être passé à l'action, et qui a inspiré ensuite plusieurs autres charmants jeunes hommes qui sont aussi, du coup, descendus dans la rue pour tuer des femmes et ou des tchads, ça arrive aussi.
Pourquoi il y aurait aussi cette envie de tuer des tchads ? Donc on répète, les, les hommes un peu vus comme les beaux gosses, hein, c'est ça. Enfin, les ceux qui réussissent, ceux qui...
Bah parce que c'est, pour eux, c'est je pense, l'image de du genre de d'homme alpha un peu qui voudrait devenir et qui apparaît être complètement hors de leur portée, quoi. Mais c'est aussi plus ça va et plus les attentats qui ont eu lieu mêlaient aussi des valeurs d'extrême droite. Donc il y avait par exemple l'idée que comment ça se fait qu'une femme blanche veuille sortir avec un noir alors que moi je suis disponible et personne ne vient me voir ou je sors avec personne. Et donc du coup il y en a certains aussi qui descendaient dans la rue pour tuer des couples interraciaux par exemple.
Et d'ailleurs on revient un peu à ce portrait type du masculinisme, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup des incels, mais finalement est-ce que ceux qui orientent peut-être le jeu, ceux qui arrivent à le plus manipuler, est-ce que eux-mêmes sont de base des incels ou est-ce qu'au contraire on est plus face à des gens qui ont une idéologie très réfléchie et un vrai projet de société qui est un projet ouvertement sexiste et d'extrême droite plus largement?
Ouais, je pense. Bah, c'est cette question-là de la capitalisation, c'est qu'à un moment il y a tous ces influenceurs masculinistes et je vais faire de la caricature, mais qui vivent à Dubaï, qui sont méga musclés et puis qui disent bah en fait moi avant j'étais comme toi et puis grâce à la musculation et un programme d'entraînement et au fait et j'ai monté ma propre boîte et puis maintenant j'attire les filles à gogo et si tu veux le faire paye 1 000 $ ma formation et tu y arriveras aussi. Mais je pense que les hommes qui vendent ça effectivement sont des hommes qui peuvent avoir, là où ça se rapproche de l'idéologie incel, c'est qu'ils ont une vision hyper rétrograde de la femme, mais ouais, complètement d'extrême droite aussi.
Mais ils n'ont pas forcément le même vécu que les incels.
Ouais, c'est ça.
Pour finir et pour qu'on ait un peu plus une idée quand même de ce à quoi ressemble la déambulation sonore, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose auquel tout le monde est forcément familier, donc c'est quoi? C'est qu'en gros, on bouge et en fonction de là où on est, on va avoir des sons différents, des récits différents?
L'idée, c'est qu'en fait, on a vraiment beaucoup travaillé sur la spatialisation du son. Donc, ça veut dire que c'est, en gros, c'est ma voix dans la ville. Et y a des arrêts, avec des trucs. Et puis, à la fin, surtout, on accueille les gens avec des chocolats et on discute avec eux.
La balade, elle est suivie d'une discussion avec le public. Là aussi, c'est une manière, j'imagine déjà, de débriefer, d'apporter des éléments en plus, mais de continuer à ouvrir le débat et à peut-être susciter des réactions.
Exactement, et puis de faire atterrir les gens, parce que c'est quand même violent. Leurs discours sont violents, très violents.
Ah, merci beaucoup Marion Thomas d'avoir été avec nous. Donc on rappelle que la déambulation sonore kit de survie en territoire masculiniste, ça a démarré ce matin et c'est ce soir jusqu'à 19h15. C'est ça le dernier, ce soir le 16 mars bien évidemment. Bonne soirée à vous.
Bonne soirée.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Une interview de Simon Bouquerel. Vous êtes toujours sur vos Radio Campus à l'écoute d'Univox. L'émission touche bientôt à sa fin, mais avant, Paolo Droyard s'est rendu à un atelier raconter son premier amour. Il a rencontré Marine Gillis, docteur en histoire du féminisme, ainsi que les participantes.
On va peut-être commencer.
Une dizaine de personnes sont venues à l'atelier de Marine Gillis pour écouter son travail et ses projets. Elle a produit une série de podcasts intitulée « Histoire lesbienne » qui donne la parole à des femmes lesbiennes québécoises de plus de 60 ans. Elle invite alors, dès le début de son atelier, deux femmes du public à venir la rejoindre devant le tableau blanc de la salle de cours de l'université pour réaliser un faux témoignage.
Ah zut, on
aurait
peut-être dû le faire.
Mais
c'était ton tour.
Elle nous explique, à la fin de l'atelier, ce qui l'a encouragée à venir présenter son projet à l'Université d'Angers dans le cadre du Mois du Genre.
Bah en fait, je voulais valoriser le podcast et je me suis dit que des ateliers pour présenter et la démarche de collecte de témoignages, qui est la démarche à la base du podcast, et à la fois aussi la construction du podcast et ensuite de faire écouter des extraits, je me suis dit que ça donnerait envie aux personnes d'écouter en fait les Québécoises. Et que pour moi, en fait, on comprend mieux un podcast si on comprend mieux le contexte des témoignages, si on les situe dans la démarche. Et voilà, j'avais à cœur à la fois d'expliquer mon travail pour le faire comprendre et valoriser ce travail-là.
Elle a été agréablement surprise par le retour du public pendant et après.
Déjà, j'ai senti que l'ambiance était très agréable. J'ai eu beaucoup de participation, J'ai senti vraiment la bonne humeur, beaucoup de questions et des personnes qui me disent qu'ils ne l'avaient pas encore écouté et qui me disent « Oh, on va l'écouter rapidement » parce que vraiment les témoignages qu'on a entendus sont superbes. Donc à moi, là, c'est que du bonheur.
Après avoir rappelé que les rendez-vous avec les couples sont bien pris en amont, l'historienne invite les deux participantes du public à s'installer devant elle, face à la caméra qu'elle vient d'installer. Micro-cravate accrochée au col de leur chemise, Marine Gillis donne ses dernières explications.
Donc là, je leur sors le contrat de témoignage qui explique, qui réexplique la démarche, le respect de la vie privée, les droits d'auteur, les droits d'autrice. Et ensuite, le plus important, c'est l'utilisation et la diffusion du témoignage.
À la suite de cette mise en scène, Marine Gillis invite le public à replacer dans le bon ordre des cartes qui représentent les différentes actions qu'elle a dû réaliser avant, pendant et après l'enregistrement d'un témoignage.
Donc vous allez vous mettre par groupe de deux ou trois et il va falloir remettre en ordre les étapes qui sont représentées en dessin.
Alors pourquoi le Québec? Pourquoi les femmes de plus de 60 ans? Marine Gillis nous répond.
Je travaillais en thèse plutôt sur les luttes féministes et lesbiennes, principalement féministes, hétéros. Et après, pour mon documentaire en Normandie, je me suis dit, au niveau des témoignages, je voudrais équilibrer 50% lesbiennes et 50% hétérosexuelles. Et je me suis dit, parce que les voix lesbiennes restent toujours minoritaires. Et là, pour le Québec, en fait, j'ai eu l'opportunité d'y aller. Et je me suis dit, je vais axer sur les lesbiennes parce que c'est quelque chose que je maîtrise mieux. Puis moi, en tant que lesbienne, c'est quelque chose qui me parle. Et puis je me suis dit, je connais pas le Québec. Ça risque de faire beaucoup si j'ai plein de profils très, très différents. Et même si tous les profils sont extrêmement différents entre lesbiennes, il y a quand même une histoire commune et des références. Et pour moi, c'était plus facile. En tant qu'historienne, j'ai fait ma thèse sur les années 70, disons que c'est ma période de prédilection, les années 70-80. Plus 80 pour les mouvements lesbiens et voilà ça mon intérêt est toujours là en fait et puis j'ai plus de facilité à collecter des témoignages avec des aînés. J'ai déjà essayé avec les jeunes mais c'est pas la même façon de faire et je suis plus à l'aise avec les aînés et puis en fait je suis plus intéressée par les parcours des aînés honnêtement.
Avant de clore l'atelier, les participants et participantes ont pu écouter et voir des extraits de témoignages de ces femmes aînées lesbiennes québécoises.
L'appartement est libre, mes parents sont chez mes amis qui nous ont recueillis après l'accident, à Sceaux. On va aller à l'appartement.
Ces témoignages ont particulièrement plu à Margot, venue participer à l'atelier.
C'était hyper concret sur les méthodes, un peu de la recherche qu'on peut développer pour collecter des archives et justement participer à documenter une histoire queer, LGBT. Donc vraiment comprendre ce fonctionnement de la recherche, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et les témoignages, justement, ça permettait de rajouter du contenu, d'avoir toutes ces histoires dont on peut se nourrir aussi, quoi. Donc c'était hyper intéressant. Alors déjà, je suis pas mal d'événements du mois du genre. C'est un événement que j'apprécie beaucoup par la diversité des thèmes traités. Et particulièrement cet atelier, raconter son premier amour. En fait, j'étais assez curieuse. J'étais pas pleinement informée sur le déroulement exact de la séquence, mais j'avais compris qu'on verrait des témoignages, notamment de vieilles personnes québécoises lesbiennes qui racontent un peu leur histoire. Donc j'étais hyper intéressée déjà par l'idée de se décentrer, de voir un autre regard international, non français, quoi, extérieur, et en même temps des histoires d'amour qui permettent peut-être de retracer un peu l'histoire, de s'inscrire dans l'histoire du lesbianisme. Donc voilà, j'étais hyper curieuse, donc c'est pour ça que je suis venue. J'ai adoré découvrir le podcast, le travail de cette chercheuse. Ça m'a inspirée aussi sur la façon de se raconter soi-même, de travailler sur l'écriture un peu éventuellement de ses propres histoires pour s'inspirer de l'histoire des autres pour contribuer aussi à parler des luttes LGBTQIA+.
Pour continuer son travail, l'historienne du féminisme et du lesbianisme a d'autres projets en tête.
Là, je vais retourner au Québec en août-septembre. Et donc, j'essaye de trouver des organisations pour faire des ateliers là-bas. Il est déjà bien écouté au Québec, mais je trouve que ce genre d'ateliers sont vraiment l'occasion de moments sympas. Et donc j'ai ça, puis après sur le plan professionnel, comme je suis très précaire, que je ne vis pas du tout de mes activités, bon, pour l'instant je suis en plein questionnement, mais mon rêve ça serait de continuer, d'aller ailleurs au Québec, de faire des entrevues à Sherbrooke, à Québec, au Saguenay, à Rimouski, mais bon ça sans argent c'est compliqué.
Pour écouter Histoire lesbienne de Marine Gillis, rendez-vous sur toutes les plateformes de musique et de podcast ou encore sur le site internet marinegillis.com.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Un reportage de Paolo Droyard. C'est la fin de cet épisode Univox. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci encore à Marion Thomas et Marine Gillis. Univox revient la semaine prochaine. Passez une bonne journée sur vos Radio Campus et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.